Ce matin, on va avoir un deuxième, j'allais dire, aperçu de l'épître, la première épître de l'apôtre Pierre, dont j'avais un peu dressé le portrait il y a quelques semaines. Donc je vais, à l'instar de tous les prédicateurs maintenant, partager mon écran. Voilà, j'espère que chacun d'entre vous à l'écran le texte. Et dans un certain sens, ce matin, le message cherchera plus peut-être un peu de la lecture de ce qui est à l'écran. Donc, vous ne serez pas perdu dans l'avancée de ce message. En introduction et pré-introduction même, je dirais simplement que cet homme, l'apôtre Pierre, j'ai toujours eu pour lui un regard très intéressé, partant d'une base pas très confortable, d'une connaissance de la parole peut-être pas forcément idéale, ayant quelque part aussi certainement, de par son métier de pêcheur, les pieds sur terre et tout ce qu'on veut. Pierre, pour moi, est un petit peu, on va dire, l'homme de tous les extrêmes, depuis cette simplicité de vie et de cœur qu'il a, jusqu'à ces deux épîtres qui sont franchement formidables. Et je suis loin d'être formidable comme lui dans mes prédications et dans ce que je peux écrire. Mais en tout cas, il m'inspire beaucoup. Aujourd'hui, le titre que j'ai donné à ce message, c'est que pouvons-nous apprendre de la vie de Pierre qui soit utile à notre service pour Dieu? Hier, j'avais au téléphone un ami qui me posait beaucoup de questions sur mais qu'est-ce que c'est votre Église? Et c'est toujours difficile de dire notre Église, elle est presque parfaite. On est toujours un petit peu timide par rapport à cette expression-là. Mais à un moment donné, je lui ai dit, peut-être que l'Église, c'est là où on apprend pour servir Dieu. C'est là où on apprend pour servir ceux qui sont autour de nous. Alors le thème qui domine la première épître de Pierre, et que grâce à l'expiation de Jésus-Christ, c'est Pierre qui le dit, les disciples du Sauveur peuvent supporter fidèlement les souffrances et même la persécution. Pierre nous prépare à ça. Tous les chapitres de la première épître de Pierre parlent des épreuves et des souffrances. Et Pierre enseigne que le fait de les supporter patiemment est plus précieux que l'or. Il va aider les croyants à obtenir le salut de leurs âmes pour l'éternité. Donc c'est pas la moindre des choses. On lit ça dans 1 Pierre 1, versets 7 à 9. Pierre rappelle aussi aux saints leur identité. Ils sont une race élue, mise à part, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, nous dit Pierre dans 1 Pierre 2, 9. J'ai déjà eu l'occasion de partager tout un message sur ce verset-là. En étudiant les conseils donnés par Pierre dans cette épître, tu peux recevoir l'espérance, l'encouragement, la force qui peuvent t'aider dans les difficultés que tu rencontres. Pierre a probablement écrit cette épître entre l'an 62 et 64 après Jésus-Christ, et c'était juste pratiquement à la fin de sa vie. Il a écrit, nous dit 1 Pierre 5, verset 13, depuis Babylone ou une forme de Babylone. Il est généralement admis que Pierre est mort pendant le règne de l'empereur romain Néron, donc peut-être juste après 64 après Jésus-Christ, lorsque Néron a commencé à persécuter les chrétiens. Alors, formidable épître révélée à Pierre par Dieu. L'homme peu sûr de lui, l'homme complexé qui pose la question qui est le plus grand parmi nous? il pouvait considérer que ce qui était autour de lui était plus grand que lui, peut-être. Voilà pourquoi il avait posé cette question. L'homme du reniement, mais aussi l'homme leader et l'homme rendu vaillant par sa foi en Christ. Alors que pouvons-nous apprendre de la vie de Pierre qui soit utile à notre service? Cette épître pourrait être envisagée comme si nous étions dans le processus d'un creuset. On a déjà eu beaucoup de messages dans le passé qui nous parlaient de cette image-là, mais je l'ai trouvée intéressante pour nous préparer au combat et surtout nous préparer à la résistance. Un creuset est un récipient dans lequel les métaux et d'autres substances sont raffinés, ce qui signifie qu'ils sont chauffés jusqu'à être mis à blanc, fondus afin d'éliminer les impuretés et de renforcer le produit final. L'expression « le creuset de l'affliction » désigne les épreuves difficiles de la vie. Quelles épreuves au creuset de l'affliction as-tu connues, avez-vous connues? On pourrait en faire une liste déjà très importante. Et je veux rien citer pour ne pas rentrer dans trop de détails, mais si vous regardez à vos propres vies familiales, vous verrez bien beaucoup de choses qui se sont passées et qui manifestent ces épreuves. L'apôtre Pierre écrit cette épître pour affermir et pour encourager, pas pour dire « oh là là, il y a des souffrances, des malheurs qui arrivent ». Il veut affermir, encourager les saints qui rencontrent alors des difficultés. Jusque vers 64, après Jésus-Christ, au moment où Pierre écrit cette première épître, le gouvernement romain fait preuve d'une grande tolérance, je dirais, pour le christianisme tout neuf, qui n'a que 60 années de vie. Mais en juillet de cette année 64, bon, à peu près, hein, un incendie détruit une grande partie de la ville de Rome, comme vous le savez. Alors certains Romains éminents accusent les chrétiens d'avoir mis le feu. Si on regarde à l'actualité d'aujourd'hui, j'attire juste votre attention sur le fait que même un ministre de l'Intérieur, j'allais dire, accuse les chrétiens évangéliques des pires maux pour faire passer des lois iniques. Et donc, en 64 après Jésus-Christ, on avait déjà une petite idée, même si c'était bien pire que ce qui se passe aujourd'hui en France, mais que les autorités n'ont pas toujours le grand discernement de voir ceux qui sont dans la vérité, dans la paix, dans la joie et qui apportent le bonheur autour d'eux par rapport à ceux qui apporteraient le malheur. Alors ça conduit à l'intense persécution des chrétiens dans tout l'Empire romain. Les chrétiens sont maltraités, entre autres par leurs anciens amis et voisins. Et c'est triste de le voir, mais ça fait partie des choses qui nous sont annoncées même pour nous-mêmes dans la parole de Dieu. Commençons à donner une idée générale un peu de cette première épître. Jésus avait donné à Pierre le mandat de paître le troupeau, d'en prendre soin. Jean 21 nous le dit. Pierre devait encore fortifier ses frères. Luc 22, verset 32 nous le dit aussi. Dans l'épître, l'exécution de ces tâches est présentée en quatre étapes, du moins c'est ce que j'ai discerné un peu à travers les textes. La première étape, ou une des étapes, Pierre rappelle aux croyants leur position extraordinairement bénie. Là, j'ai mis juste bénie, mais c'est incroyable. Bénie, céleste devant Dieu. Et la première application que vous voyez peut-être écrite en bas, c'est peut-être un tout petit peu petit. Es-tu personnellement dans ces quatre positions décrites par Pierre? Et la première, considères-tu ta position comme bénie, comme céleste devant Dieu? Si ça n'est pas le cas, c'est important de revenir devant Dieu, de dire « mais merci Seigneur de tout ce que tu as fait pour moi ». La deuxième, il les instruit à propos des relations et devoirs qui leur sont dévolus comme étant des étrangers dans le monde. Et là aussi, ça m'amène à une application. Est-ce que tu te considères comme étranger dans le monde d'aujourd'hui? Alors, étranger dans le sens où, évidemment, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde, comme le dit la parole. Mais par contre, on est dans le monde. Et si on est, si on a l'esprit à se dire qu'on est en dehors du monde, on est mal parti. Et donc, c'est une bonne application que l'apôtre Pierre veut nous donner. Troisièmement, l'apôtre explique que pendant leur vie, ici-bas, les croyants sont placés sous le juste gouvernement de Dieu. Et c'est une troisième application, si on peut dire. Es-tu soumis à la direction que Dieu veut donner à ta vie? Là aussi, bien entendu, c'est une lutte constante que d'être sous la conduite de notre Seigneur, parce que bien souvent, on échappe. Alors, Pierre encourage ses frères à la patience dans les souffrances. Facile à dire, plus difficile à faire. Homme pratique, Pierre s'occupe davantage de la marche que de la doctrine. Mais celle-ci est toujours partout dans ses écrits sous-jacentes. Il parle toujours du Seigneur Jésus comme de la personne que nous devons contempler. Jésus a laissé pour les siens un exemple à suivre. Alors on le lit dans la première épître de Pierre au chapitre 1, verset 11, 19, 20, au chapitre 2, verset 4, verset 21 à 25, au chapitre 3, verset 18, et au chapitre 22, verset 4, et aussi au verset 1. Donc, la question que je pose par rapport à la patience dans les souffrances, c'est est-ce que tu es encourageant? Est-ce que tu encourages les frères et les sœurs dans leurs souffrances? C'est une question importante, ne serait-ce même que pour la vie d'Église. Et j'apprécie tellement que nous recevions des nouvelles et des encouragements de la part de l'Église en général. C'est une très bonne chose. Les deux premiers versets de 1 Pierre, et on ira tout à l'heure jusqu'au verset 5, et ça sera les cinq versets de notre prédication ce matin. Pierre, apôtre de Jésus. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire Pierre, apôtre de Jésus le Christ, parce que souvent on dit Jésus-Christ. Ok, ça ne me convient pas. Jésus est le Christ, il n'est pas Jésus-Christ, la caravane passe, hein, voilà. À ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Par rapport à ce que je disais en toute introduction, je vois là quand même un apôtre, j'allais dire, même littérairement, au-dessus du lot. Cette écriture est merveilleusement bien écrite et en même temps très compréhensible. Il est intéressant de constater que l'apôtre Pierre adresse son épître aux chrétiens sortis du judaïsme dans les provinces mêmes où l'apôtre Paul commença l'exercice de sa mission. Dieu a tout prévu. Il a prévu, alors l'apôtre Paul et j'allais dire son entourage, et l'apôtre Pierre et aussi son entourage, pour deux missions, une auprès des juifs sortis du judaïsme et une auprès des non-juifs. Alors, les trois personnes de la divinité, Dieu, le Père, le Saint-Esprit et Jésus-Christ, le Sauveur, inconnus sous cette forme au peuple juif dans leur caractère propre, sont cités ici comme formant la base, bien sûr, sur laquelle la foi des croyants est édifiée, de ces croyants-là en tout cas. Alors encore des applications. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont-ils tous les trois la base de ta foi? Première question. Es-tu assuré que Dieu a de nombreux élus parmi les juifs de l'époque? J'ai entendu parfois des chrétiens du siècle d'aujourd'hui ne pas croire beaucoup au fait que des juifs se soient convertis. Il y a des juifs qui se sont convertis, la preuve c'est que Pierre était auprès d'eux. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, ça continue. Acceptes-tu d'avoir été choisi d'après la prescience de Dieu? Parce que ça aussi, c'est une bonne question. Je dis, mais pourquoi moi? Et je me suis tellement souvent posé la question. Maintenant, j'apprécie que Dieu m'ait apporté ses réponses. Alors, ayant assisté, pour ainsi dire, au conseil de Dieu et à tout son travail préliminaire dans les saints, nous sommes informés du but auquel ce travail devait aboutir. Alors, ce but, il est double dans l'Épître. Il est résumé par ces mots, élu pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Alors, élu pour l'obéissance de Jésus-Christ, Dieu veut avoir sur la terre un peuple qui suive ses traces, et surtout les traces de l'homme parfait qu'était Jésus-Christ. Toute la vie de Christ ici-bas se résume dans le ciel à ce mot, obéir à Dieu. Voici, dit-il dans la parole, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il n'a pas dit, je viens pour faire ma volonté, puis tu vas t'adapter. Et nous sommes dans cette perspective. On ne dit pas à Dieu, ok, je fais, tu vas t'adapter. On écoute Dieu et on s'adapte à ce que Dieu veut. Mais parfois, on fait preuve d'initiative, bien entendu, et on prie avant que Dieu nous bénisse dans nos initiatives. Il a réalisé cette obéissance, Jésus le Christ, dans l'agonie de Gethsémané en disant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Luc 22, verset 42. Et encore, quand son âme était troublée devant l'heure de l'abandon, il dit « Père, glorifie ton nom » dans Jean 12, verset 28. Encore quelques applications. Alors, est-ce que l'obéissance à Dieu est l'une de tes qualités et un de tes premiers réflexes? Ah, on peut rester 10 minutes sur cette question, n'est-ce pas, et y réfléchir. Te conduis-tu comme sacrificateur, prêtre, en lieu et place des sacrificateurs de l'Ancien Testament? On parle d'aspersion de sang et c'est une symbolique. Alors, comme sacrificateur, aimes-tu participer au sacrifice, c'est-à-dire à glorifier Dieu, à travers, par exemple, la scène, à travers la vie de l'Église? Voilà une forme d'aspersion de sang sur ta vie et celle de ton entourage. Toujours donc dans ces deux premiers versets de Pierre, qui se terminent en disant que la grâce et la paix vous soient multipliées, nous dit l'apôtre Pierre, pour suivre cet humble chemin d'obéissance ici-bas, nous avons encore plus besoin de la faveur spéciale et des relations sans nuages de nos âmes avec Dieu. Nous avons encore plus besoin de la faveur spéciale et des relations sans nuages de nos âmes avec Dieu que pour entrer dans la jouissance de notre position céleste. On a été mis à part, pas pour un jour, deux jours, mais pour l'éternité. Alors, autre application, es-tu conscient que vivre en Christ est la grâce par excellence? On a eu toute une première partie de culte où on a signifié ça à notre Dieu, que sous sa grâce, on était terriblement béni. Es-tu conscient que Christ procure la paix du cœur qui te rend tranquille dans les épreuves et dans la perspective de l'avenir? C'est important d'être dans le repos, de ne pas être inquiet pour l'avenir. Merci Christian d'avoir prié dans ce sens tout à l'heure dans la première partie du culte également. Les versets suivants. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les temps anciens. Quel beau texte. Alors, l'espérance était céleste. On parle de l'époque de Pierre. Ça n'avait plus rien à faire avec la possession d'avantages terrestres. et je rajoute corruptible. L'héritage était entièrement céleste. Il ne pouvait se souiller, il ne pouvait se flétrir. Pendant le peu d'instants où Dieu avait autrefois confié l'héritage terrestre à Israël, chacun d'entre nous sait, comme une fleur entrouverte, ça avait déjà fané au bout d'un jour. L'héritage que Dieu avait laissé aux Juifs, ils ne l'ont pas respecté. Alors l'héritage céleste, lui, il est dans la pureté complète, l'impossibilité d'y introduire quelques souillures ou de le voir prendre fin. Ça le caractérise bien plus, même le chrétien ne peut le perdre. Il est conservé par Dieu lui-même dans les cieux pour nous. Alors vous direz, mais si c'est vrai, peut-être moi, je ne suis pas tellement dans le coup. Je ne suis pas conservé pour entrer dans le lieu céleste avec Dieu. Eh bien au contraire, s'il m'est conservé à moi, et même l'apôtre Pierre le dit, je suis gardé pour en prendre possession plus tard. Alors encore d'autres applications. La résurrection est-elle la base de votre espérance? Et croyez-vous que Dieu vous conserve votre héritage céleste jusqu'au bout? On a parfois dans certains courants évangéliques l'affirmation que le salut se perd et ne se retrouve pas, même si parfois, eh bien, on s'éloigne de Dieu, ça arrive malheureusement, mais c'est comme ça, et que parfois on retombe même dans des péchés terribles, mais on peut revenir à Dieu quand on veut, le salut ne se perd pas. Alors tout est donc absolument certain pour le chrétien, quel qu'il soit. Son héritage lui est conservé et lui-même est gardé pour la délivrance finale qui reste encore à être révélée, mais le sera au dernier temps. Cette puissance de Dieu nous garde pour ce moment-là, en même temps que de notre part, la foi qui nous est donnée nous garde dans la réalité de Dieu, dans la vie quotidienne. La foi arrive toujours à ses fins. Elle est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas, nous dit la parole. Alors nous sommes gardés, et en plus d'une manière merveilleuse, pour entrer en possession de cet héritage. Alors, l'apôtre lui donne ce nom, un salut, parce qu'il écrit à des chrétiens sortis du judaïsme. Ces chrétiens pensaient être sauvés. C'est à ces fins que Pierre utilise le mot salut. La délivrance pour eux n'est pas encore révélée. Il leur faut attendre pour cela les derniers temps. Mais elle est toute prête à l'être. Dès que le dernier temps aura paru, ce salut sera révélé, c'est-à-dire la pleine et définitive délivrance et tous les résultats éternels et glorieux de l'œuvre de Christ dans les cœurs, comme dans les nôtres. Alors que pouvons-nous apprendre de la vie de Pierre qui soit utile à notre service pour Dieu? 6 applications pour nous révéler les clés de ce qui doit être notre relation avec Dieu, la base de notre vie quotidienne de chrétien, la préparation de nos cœurs pour les temps difficiles et les souffrances sous le regard bienveillant du Seigneur et sa conduite sanctificatrice et une espérance vivante. J'aimerais vous laisser pour la conclusion de ce message une petite histoire que j'ai récupérée sur Internet. 4 bougies brûlaient lentement. Il régnait un tel silence que l'on pouvait entendre leur conversation. La première dit « Je suis la paix ». Cependant, personne n'arrive à me maintenir allumé. Alors je crois bien que je vais m'éteindre. Et sa flamme diminue peu à peu et elle disparaît. La seconde dit « Je suis la foi ». Mais bon, dorénavant, le monde pense que je ne suis plus indispensable. Ça n'a pas de sens que je reste allumé plus longtemps. Pardon. Et sitôt qu'elle eut fini de parler, une brise légère souffla sur elle et elle s'éteignit. La troisième bougie se manifesta à son tour. Je suis l'amour. mais je n'ai plus de force pour rester allumé. Les gens me laissent de côté et ne comprennent pas mon importance. Ils oublient même d'aimer ceux qui sont proches d'eux. Et sans bruit, elle s'effaça à son tour. Alors un enfant entra qui vit les trois bougies éteintes. Mais pourquoi avez-vous cessé de brûler? Vous devriez rester allumé jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Et une larme glisse le long de sa joue. Alors la quatrième bougie murmura « N'aie pas peur ». Tant que j'ai ma flamme, nous pourrons rallumer les autres bougies. Je suis l'espérance. Alors, les yeux brillants, l'enfant prit la bougie et l'espérance et ralluma les trois autres. Puisse l'espérance ne jamais s'éteindre en nous et dans nos cœurs, évidemment. Merci Seigneur pour l'apôtre Pierre. Le rendu de son amour pour toi est étonnant. Il est constructif pour nos vies. On peut bâtir sur ses écrits quelque chose d'extrêmement fiable, formidable, merveilleux. On est contemplatif, Seigneur, de la révélation que tu as faite à cet homme qui était un homme au départ plutôt faible. Une révélation fantastique pour le reste des jours de l'humanité jusqu'à ce que tu reviennes. Et nous contemplons, Seigneur, ta grâce, ta bonté, ta miséricorde à travers ces textes que tu as laissés pour nous et que nous voulons encore méditer dans les jours qui viennent pour te glorifier, Seigneur, et pour les vivre pleinement et les vivre en fonction de nos frères et nos sœurs, de notre voisinage et même de nos ennemis. Et je prie ces choses en ton nom, Seigneur, que tu nous donnes un cœur nouveau pour vivre tout ce que nous avons entendu ce matin pleinement. Amen.